Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, Christina Silvero pour cette édition d'Escale consacrée à la santé des océans. Nous recevons dans nos studios le scientifique et explorateur marin de National Geographic, Henrik Salla. Il est passé à l'ONU pour plaider en faveur de la création de réserves marines lors de la conférence sur les océans qui a démarré l'été aux Nations Unies. Bonne écoute.
Je suis explorateur de National Geographic et ça veut dire que je passe ma vie à explorer, étudier la mer, filmer, produire des films et aussi d'essayer d'inspirer des pays, des leaders à protéger les endroits les plus sauvages de la mer.
Alors justement, vous affirmez que de protéger des zones et des aires dans la mer, ça apporte des grands bénéfices. Lesquels ?
Maintenant, on a de très gros problèmes sur la mer. Il y a trop de pêche, il y a de la pollution et aussi le changement climatique. Mais il y a une solution qui est très simple. Si on arrête de pêcher dans certaines zones, si on crée des réserves, la vie marine se récupère très rapidement. Et en plus, ça aide à récupérer les populations de poissons autour de ces réserves. Donc la pêche s'améliore autour. Alors ces réserves sont comme des investissements.
Elles apportent donc des bénéfices non seulement en matière de préservation et de conservation, mais aussi économiques.
Voilà, et en plus de la pêche, quand les poissons retournent, les plongeurs arrivent. Il y a plein d'endroits où les entreprises de plongée, écotourisme se sont développées et elles amènent beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de bénéfices économiques que la pêche. Et par exemple, la Grande Barrière de Récif en Australie amène presque 5 milliards de dollars à l'Australie chaque année. Et ça supporte aussi 60 000 emplois. Et en plus, la valeur touristique est 40 fois plus grande que la valeur de la pêche.
Est-ce que cela s'applique aussi aux pays en développement ?
Absolument. Il y a des pays comme le Kenya qui ont vu de l'amélioration des bénéfices économiques pour les pêcheurs. En 3 ans, le pêcheur peut doubler l'argent qu'ils font de la pêche parce qu'il y a cet effet de récupération des poissons autour des réserves.
Et au niveau de la génération d'emplois parallèles, vous parlez notamment de tourisme, c'est ça ?
Oui, tourisme. Il y a des endroits comme la Méditerranée où il y a de très petites réserves. Il y en a très peu, et elles sont très petites. Mais par exemple, mon exemple préféré, c'est aux îles Medes, sur la Costa Brava, en Catalogne, d'où je viens. Il y a une réserve qui est seulement 1 km² en surface. 1 km² qui amène 12 millions d'euros chaque année à la communauté locale. 12 millions par kilomètre carré. Ça, c'est extraordinaire. Alors, il y a des opportunités un peu partout dans le monde qui ne se sont pas réalisées encore, mais le potentiel écotouristique qui peut aider à financer des aires protégées, c'est extraordinaire.
Autre sujet aussi, vous avez évoqué le fait que les océans sont menacés par la pollution. Et on a beaucoup parlé lors de la conférence de l'impact des déchets en plastique qui mettent plus de 400 ans vraiment à se détériorer, à se défaire, à se décomposer. Et en fait, même quand ils se décomposent, demeurent toxiques. Alors que proposez-vous, que faire devant cette situation ?
Ce qu'il faut faire, c'est très difficile à ce point-là de nettoyer le plastique de la mer parce que la plupart du plastique est dans des particules très petites et sous la surface, même dans les parties les plus profondes de l'océan. Alors la seule solution à long terme, c'est d'éviter la contamination plastique. Ça veut dire qu'il faut changer notre économie linéaire où on produit quelque chose, on l'utilise, par exemple le sac en plastique supermarché. La vie moyenne d'un sac plastique, c'est 20 minutes. Après, on le jette. Et 80% du plastique à l'océan vient de la Terre. Alors il faut changer à une économie circulaire où tous les matériaux feront partie de notre produit après, où il n'y a pas de déchets. Alors il faut un changement dramatique dans les processus industriels. Et en plus, les gouvernements doivent passer régulation et en plus incentiver ces changements à l'économie circulaire.
Que peut faire le consommateur ?
Bon, j'ai passé une semaine ici aux Nations Unies. Et j'étais un peu déçu qu'à la cafétéria, il y a tellement de trucs en plastique qui ne sont pas nécessaires. Alors ça serait bien pour le joueur ici aux Nations Unies d'écouter un peu le message dont plusieurs leaders ont parlé sur la pollution plastique et changer les pratiques ici aux Nations Unies. Mais une chose que tout le monde peut faire qui est très facile et ça coûte rien, c'est éviter d'utiliser le produit en plastique qui sont dans une seule utilisation. Par exemple, le sac en plastique ou les pailles. Alors, il y a des endroits où ils vendent des pailles qui sont en plus dans un petit sac en plastique. Ça, c'est ridicule.
Est-ce que le fait d'utiliser un sac, par exemple, le sac en plastique, s'il est après utilisé pour les déchets, de toute façon, ça revient à la même chose. C'est le même sac en plastique qui atterrit dans les océans.
Voilà. Moi, quand je vais au supermarché, j'utilise mes sacs comme ma maman ou ma grand-maman utilisaient. Et en plus, je suis allé dans les endroits les plus sauvages, les plus lointains de la mer. Des endroits, des îles paradisiaque au milieu du Pacifique, avec personne. Tu plonges là et c'est plein de vie, plein de gros poissons, de merous, de requins, de beaux coraux. Mais après, on marche sur les plages et on trouve le plastique partout. N'importe quelle l'île est, il y a du plastique partout. De bouteilles d'eau, de sandales.
C'est la population ou c'est ramené par la mer?
C'est ramené par la mer. Il y a des endroits où il n'y a personne au milieu du Pacifique et on trouve des déchets en plastique qui viennent de la Chine, du Japon, de l'Indonésie, de l'Amérique du Sud.
Et vous avez déjà vu ces espèces de marées des îles de plastique que l'on mentionne?
Il y a des endroits dans la mer où la concentration de plastique est beaucoup plus grande que dans d'autres zones. C'est on appelle le gyre au milieu des océans. Mais il n'y a pas d'île en plastique parce que la plupart du plastique est dans des particules microscopiques. C'est du plastique qui s'est détruit. Aussi, il y a des fibres qui viennent de nos vêtements, de polar fleece, par exemple. Alors, je crois qu'au lieu de îles en plastique, on devrait parler d'une soupe. L'océan est devenu une soupe de plastique.
Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début, y'avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer le désert. Faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire.
Qu'est-ce que ça fait de plonger avec des requins?
La première fois que j'ai plongé avec un requin, c'était en mer Rouge, en Égypte. Et c'était un petit requin de pointe blanche. Et j'étais très nerveux. Mais après, j'ai découvert que les requins ne sont pas évolués pour manger des humains. Les requins, ce sont des prédateurs formidables. Mais on a plongé avec des requins des centaines et centaines de fois. Et on n'a jamais été attaqué.
Est-ce que vous avez même des photos avec des requins marteaux qui sont censés être très agressifs?
Non, ils ne sont pas agressifs. Je ne sais pas qui a commencé cette réputation, mais chaque année, autour du monde, seulement 5 personnes en moyenne sont tuées par des requins. 5. De l'autre côté, nous tuons un maximum de 100 millions de requins par année. Alors, c'est le requin qui devrait avoir peur de nous, pas le contraire.
Des hommes tournent un film. Munis de scaphandres autonomes à air comprimé, ils sont délivrés de la pesanteur. Ils évoluent librement.
Pour faire ce film... Quand j'étais petit, je voyais le documentaire de Jacques Cousteau à la télé et j'étais tellement pris. Je voulais explorer l'océan. Mais alors, il nous montrait des endroits incroyables avec des merous, des requins, des phoques, des récifs coralliens. Et après, j'allais nager sur la Costa Brava, en Méditerranée. Il n'y avait rien. Il n'y avait même pas d'algues. C'était plein d'oursins qui mangeaient les algues. Il n'y avait pas de gros poissons. J'avais jamais vu un mérou quand j'étais petit, jamais. Et je pensais que ça, c'était naturel. Mais après, j'ai plongé dans la réserve marine des îles Medes, plusieurs années après la protection. Et là, c'est la première fois où j'ai vu les gros mérous, les raies, les gros poissons que Jacques Cousteau nous avait montrés. Et c'est là, dans cette petite réserve des îles Medes, où j'ai compris que ça, c'était une fenêtre au passé. Ça, c'était un témoin de ce que la Méditerranée avait. Mais aussi, pour moi, ça, c'était très important. Ce n'était pas une chose nostalgique. Pour moi, c'était le témoin, la preuve que si on protège, on peut récupérer ces richesses. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de dédier ma vie à inspirer la création de réserves marines partout dans le monde pour que la vie marine puisse se récupérer.
Et vous avez vu des exemples vraiment de récupération forte et combien de temps ça prend?
Oh mon Dieu, partout dans le monde. Si on arrête de pêcher dans des endroits, si on arrête de polluer, si on arrête de construire sur la côte, la vie marine se récupère spectaculairement. Il y a un endroit, un mer de Cortés, au Pacifique mexicain, où on est allé l'année 1999. Il n'y avait rien. C'était de la roche avec des éponges de très petits poissons. La zone a été protégée. 10 ans après, on est retourné. Il y avait des écoles de milliers de poissons. Il y avait des agrégations de centaines de mérous. Il y avait même des requins. C'est extraordinaire, ça, dans 10 ans. En moyenne, entre 3 et 5 ans, on peut voir des différences très claires quand on protège une zone.
Et ça apporte aussi un bénéfice aux coraux face au changement climatique, non?
Oui, les réserves ne peuvent pas protéger un endroit de réchauffement. Mais si on protège et on a tous les poissons là, tous les animaux, si on a l'écosystème entier avec toutes les pièces, c'est beaucoup plus facile pour cet endroit de se récupérer. Alors, il y a des coraux qui s'offrent, qui se blanchissent, mais dans des endroits qui sont encore presque vierges, des endroits protégés, les coraux se récupèrent beaucoup plus facilement que dans des autres endroits.
Donc, ils sont récupérables même une fois blanchis?
Il y a des endroits comme les îles de la Ligne ou le Phoenix Islands, au Kiribati, au Pacifique du Sud, qui sont protégés, qui ont un écosystème extraordinaire avec des gros poissons, des requins, des poissons paroquets. Tous les acteurs sont là et ces endroits se sont blanchis après l'événement de réchauffement récemment. Mais ils sont en train de se récupérer très très bien parce que l'écosystème est beaucoup plus bonne santé. Alors c'est plus résilient. Alors la protection d'un endroit fait cet endroit plus résilient en face de changement climatique. Ça fait déjà 9 ans qu'on travaille sur le projet de National Geographic Pristine Seas. Et notre but, c'est d'explorer, documenter les endroits les plus sauvages de la mer pour inspirer les leaders des pays à qui appartiennent ces zones de les protéger.
Et ça marche?
Ça marche. On est allé dans 23 endroits les dernières 8 années. 13 zones sont déjà protégées, sont des réserves marines les plus grandes du monde. Maintenant, on a contribué à la création de 13 réserves avec une surface totale de 4 millions et demi de kilomètres carrés. Le gouvernement du Chili a annoncé aussi la création de 2 nouvelles réserves, 2 nouveaux parcs avant la fin de l'année. Ça serait un demi-million de kilomètres en plus. Alors, on continuera à travailler pendant les prochaines 3 années pour qu'on puisse arriver à l'année 2020, essayer d'arriver au but de Nations Unies de 10% de l'océan protégé à l'année 2020.
Et c'est avec ces paroles encourageantes d'Henrik Sala que se referme cette édition d'Escale pour la santé des océans. Escale, le magazine hebdomadaire de Nu Info présenté cette semaine par Christina Silvero, à retrouver sur les ondes de nos radios partenaires, sur Internet et sur les réseaux sociaux, Facebook, SoundCloud et Twitter. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence.